Les matins de France Culture.
Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Avec ce matin, une confusion générale tout d'abord.
Oui, même si toute la presse, à l'instar du Daily News d'Harare, en est convaincue, c'est fini pour Mugabe. En réalité, l'heure du départ n'a pas encore tout à fait sonné pour le président zimbabwéen. Hier soir, Papy Boy, ainsi que le surnomme l'observateur Paalga, en effet stupéfié tout le monde alors qu'il s'apprêtait à s'exprimer à la télévision nationale. Chacun s'attendait à ce qu'il annonce en direct sa démission. Une source proche de son entourage avait même rapporté sous couvert d'anonymat qu'il avait accepté de quitter ses fonctions. Et puis non, surprise, au contraire, Robert Mugabe a déclaré que l'opération à laquelle il avait échappé ne remettait pas en cause son autorité en tant que chef de l'État. Il est même allé jusqu'à affirmer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti, après en avoir été pourtant évincé quelques heures plus tôt à peine, précise la BBC. De quoi plonger donc le pays un peu plus encore dans la confusion. Alors sous le choc de cette allocution, les membres de son parti ont immédiatement riposté, le menaçant d'enclencher une procédure d'impeachment s'il ne démissionnait pas avant aujourd'hui midi. Quoi qu'il en soit, résume à nouveau le quotidien de Ouaga, l'observateur Paalga, là où le vieux dinosaure aurait pu rendre son tablier et se faisant sauver un minimum de dignité, il semble désormais acquis qu'il préfère boire le calice du coup de force jusqu'à la lie, comprenez sa destitution par voie parlementaire, avec de possibles poursuites judiciaires à la clé, ou quand l'invincible Mugabe, nuance de zimbabwéenne, est seulement sur le point de tomber.
Et la confusion, Thomas, semble tout aussi palpable en Allemagne ce matin, où Angela Merkel a reconnu avoir échoué à former une coalition gouvernementale.
Oui, un échec qui pourrait plonger le pays dans sa pire crise politique depuis des décennies, et toute la presse outre-Rhin ce matin de détailler donc les différentes options désormais sur la table. Tout d'abord, la constitution ne fixant pas de limites pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel pourrait en théorie relancer un round de négociations. Mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude, la quadrature du cercle resterait inchangée. Comment faire cohabiter les conservateurs, les libéraux et les écologistes, opposition aussi antinomique, notamment sur l'immigration et l'environnement. Sans compter que la chancelière ne prendra certainement pas le risque de paralyser durablement la première puissance européenne. Deuxième option, Angela Merkel peut essayer de convaincre les sociaux-démocrates d'accepter de poursuivre le gouvernement de grande coalition qu'ils dirigent ensemble depuis 2013. Arithmétiquement, il serait aussi majoritaire à la Chambre des députés, sans compter que la chancelière pourrait sans doute, le cas échéant, compter sur le soutien du président allemand, un social-démocrate. Problème, le SPD, laminé lors du dernier scrutin, refuse catégoriquement. Troisième option, un gouvernement minoritaire. Pour cela, la chancelière doit être élue par les députés, sauf qu'Angela Merkel elle-même a rejeté jusqu'ici cette option à haut risque, conduisant à gouverner en s'appuyant sur des majorités changeantes, une situation qui ne s'est d'ailleurs jamais produite depuis la guerre. Reste donc l'option la plus probable, retourner aux urnes. De nouvelles élections sont-elles imminentes, interroge ce matin la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Seulement voilà, là encore, il y a un hic, personne ne veut de nouvelles élections, précise le Spiegel. Et pourquoi? Parce qu'il y a un os, écrit l'hebdomadaire, des élections anticipées risqueraient de profiter avant tout au parti d'extrême droite AfD, qui a fait une entrée fracassante au Bundestag. Seule certitude, conclut Die Zeit, Merkel conforte aujourd'hui l'impression largement répandue que la politique est une boîte noire, difficile à cerner et plus difficile encore à comprendre.
Et quand tous les pronostics échouent, c'est encore une fois la confusion qui l'emporte, avec ce matin l'exemple venu du Chili.
Oui, des élections inédites, titre notamment El Mercurio, même si comme attendu, l'ex-chef d'État de droite, Sébastien Piñera, est bien sorti en tête hier du premier tour de l'élection présidentielle. Il n'a recueilli que 36% des voix. En revanche, son adversaire socialiste Alejandro Rillière a lui réussi à se hisser à la deuxième place avec un peu plus de 22% des suffrages. Autre score inattendu, le candidat d'extrême droite qui n'hésite pas à revendiquer l'héritage de la dictature Pinochet a recueilli près de 8% des voix. Enfin, la vraie surprise de ce premier tour vient de la candidate de la gauche antilibérale, Béatrice Sánchez, créditée de 20% des voix, un résultat qui pourrait permettre à son mouvement d'entrer au Congrès et qui lui confère surtout un vrai pouvoir de négociation pour le second tour. Reste qu'après ce résultat inattendu, Béatrice Sánchez a immédiatement exigé des explications publiques des instituts de sondage qu'il avait crédité de moins de 10% des voix. « Je veux une explication. Si ces sondages avaient dit la vérité, nous serions au second tour », a-t-elle proclamé, assurant que ces résultats rebattaient les cartes et de fait, ils reconfigurent complètement le paysage politique chilien, d'où le titre ce matin du journal en ligne The Clinic. L'échec de Piñera, l'inimaginable opportunité de Rillière. salaires et l'effondrement des instituts de sondage.
Enfin, en Espagne, le parti conservateur du Premier ministre est toujours au cœur de l'enquête portant sur la plus grande affaire de corruption dans l'histoire du pays.
Oui, c'est l'autre affaire passée sous silence depuis les événements récents en Catalogne. Le parti de Mariano Rajoy est soupçonné d'avoir mis en place une comptabilité parallèle, encaissé des donations illégales d'entreprises, du bâtiment et accepté des pots de vin. On lui reproche aussi d'avoir entravé le travail de la justice en ayant détruit des preuves. Et la presse espagnole se montre indignée de la réaction affichée par le parti face à cette enquête. C'est le cas en particulier du journal, pourtant conservateur, ABC, lequel précise que les informaticiens du Parti Populaire ont reformaté les disques durs pas moins de 35 fois avant de les rendre illisibles et de le mettre au rebut. Alors d'un point de vue juridique, cet acte peut être ou non qualifié de délit. Il appartient au juge de trancher, mais sur le plan politique et esthétique, la démarche du Parti conservateur est scandaleuse, s'insurge le journal. On est là en présence d'un acte délibéré de destruction de preuves afin qu'elle ne tombe pas dans les mains des juges. Or, même en cas d'acquittement, l'affaire sera une page sombre de l'histoire du parti qui se targuait de vouloir collaborer avec la justice pour faire toute la lumière sur les soupçons de l'existence d'une caisse noire.